Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, e va bene lo so. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere. Non si.
Aligre FM présente Cappuccino. Il presentatore del 9:30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Alors avant de commencer cette troisième partie de Cappuccino, on salue nos amis marocains qui ont subi ce terrible tremblement de terre à Marrakech ou dans la région qui a fait plus de 2000 morts. Peut-être on en parlera avec Alberto Toscano tout à l'heure. Merci d'être là. Merci Pietro.
Il n'y a pas de quoi.
Voilà,
un
super. Et voilà, je lui donne un bonbon, il le mange. Hein,
bien sûr.
Bon, tout va bien, les gens appellent, c'est bien, on rappelle 01 40 24 29 29 pour avoir la possibilité d'inscrire votre nom ou le nom de vos ancêtres sur une feuille qui sera sur un arbre pour le monument qui est construit par le cercle Leonardo da Vinci. Raffaelito, come stai?
Bene, Michel, bene. Et toi?
Ben écoute, ça va, on était content, on a regardé le match de l'Italie hier soir, on s'est éclaté
dans le bon sens ou on s'est endormi.
Écoute, je crois que j'ai jamais vu un match aussi mauvais de ma vie.
Aussi mauvais, hein.
Mais c'était incroyable.
Hier, l'Italie, deux matchs, Michel, le match formidable a été celui de rugby.
Ah oui, oui, l'Italie a gagné. Oui.
Là, une Italie exemplaire, une équipe exemplaire, et ce match honteux du soir.
Oh là là.
Du soir.
Oh, le foot italien,
ces enfants gâtés, sincèrement.
Le foot italien, il a touché le fond.
Alors, ce qui est terrible, c'est qu'on se dit toujours, bon, on va pas être pessimiste, mais on se dit toujours, ça y est, on a atteint le fond, et là, ça va remonter.
On ne fait rien pour remonter. On ne fait rien pour remonter, Michel.
Ah,
il n'y a pas un joueur italien dans les équipes italiennes. Il n'y en a pas un.
Non, mais il n'y a pas une équipe.
Et en plus, c'est vraiment des joueurs qui ont un niveau technique qui est d'une faiblesse.
C'est nul.
Incroyable, quoi. Ça fait peur. Bon, enfin, c'est dit. Allez, mardi, il y aura voilà, une autre chance de l'Italie peut-être de se qualifier pour l'Européen si elle bat l'Ukraine à Milan. Ça sera mardi soir et ça sera en direct à la CLI aussi. Voilà, c'est dit. Alors, dans cette troisième partie de Cappuccino, on aura le plaisir de recevoir vers 9h45, vous l'avez déjà entendu, le journaliste et écrivain Alberto Toscano pour la rentrée politique.
Grazie.
Et économique en Italie, hein, donc il y a du boulot. Et là, de suite, on va commencer avec un hommage à Lucio Battisti, parce que ça fait exactement 25 ans qu'il a disparu hier, le 9 septembre 98. On l'écoute et on l'apprécie avec une chanson de 1972 et Penso a te.
Penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te, dove andiamo? E penso a te, le sorrido. Passo gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per per due che come noi non sperano, però si stan cercando. Scusa, è tardi e penso a te, t'accompagno e penso a te, non sono stato divertente e penso a te, sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te.
Vous êtes à l'écoute de Cappuccino sur le 93. Bon réveil à tous, le téléphone le 01 40 24 29 29. On va encore passer une chanson de Battisti parce que en fait, voilà, 25 ans qu'il est décédé, donc on s'est dit on va passer deux chansons. Et là, c'est une petite perle parce que c'est Battisti qui chante en français une chanson de 1973, donc il y a 50 ans précisément, et ça s'appelle Ma chanson de liberté en français. Et on va voir si vous êtes des Bastiani, des Bastaniens, c'est des tifosi de Lucio Battisti qui se réunissent comme ça sur des groupes sur Facebook. Et donc voilà, quelle est la chanson en italien, quel est le titre? Il n'y a rien à gagner, mais c'est juste pour le plaisir. En français, c'est Ma chanson de liberté.
Dans un monde qui ne veut plus de moi, ma chanson de liberté, c'est toi. Et je prends tes mains et je crie ton nom, et mes yeux s'ouvrent plus loin que l'horizon. Et je me sens libre, j'ai envie de vivre dans le soleil qui me vient de toi. Tu es comme le cri de l'espérance dans tout un univers d'indifférence. Tu es mieux que l'image de l'amour. Tu es mon amour dans un monde qui emprisonné, nous vivons sa liberté, toi et moi.
la vérité se trouve à nos pères, comme au milieu d'un jardin, les fleurs. Les nuits sont plus belles et des joies nouvelles portent le chant de la jeunesse à nous. Je n'ai plus dépassé ni des problèmes. Je suis un autre et tu n'es plus la même. Tu es le souffle tiède de l'amour. Ma vie est avec toi. Je ne sais où tu vas, pourtant tu sais déjà. Où tu seras, je serai là. Si tu le veux.
Si, alors Alberto, il avait trouvé quelle était cette chanson en italien, mais lui ça compte pas, il est trop fort. Oui.
Non, qu'est-ce que j'ai gagné, Michel?
Ah, t'as gagné le droit de nous expliquer la politique et l'économie italienne jusqu'à 10h30. Voilà, donc cette chanson en italien, c'était le mio canto libero, bien sûr. Voilà, tu disais hors antenne d'ailleurs que Battisti, il avait eu des problèmes quand il était...
Non, mais c'était une époque début. Spéciale en Italie, hein, ce... moi, je suis né en 48, donc j'ai vécu cette époque, j'avais une vingtaine d'années, quand ces cantautori proposaient leur musique et leurs textes. C'était souvent des textes engagés sur le plan politique. L'emblème était Tenco, hein, mais les autres aussi, même... Gino Paoli, Gianni Morandi chantaient. C'era un ragazzo che come me à l'époque de la guerre du Vietnam, hein, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e ricevette una lettera e il meurt au Vietnam. Donc c'était des histoires engagées et Lucio Battisti racontait sur des musiques magnifiques des histoires d'intimité personnelle Et c'était un peu en contradiction avec l'air du temps, hein, qui dans les années 60,
plutôt
70,
des chansons engagées,
surtout
quoi,
70, hein, ouais, était différent. Et donc on voyait en général, l'attitude générale des jeunes Italiens de l'époque était de voir, considérer Battiste comme différent par rapport aux autres choses qu'il était, mais il avait droit de l'être, de choisir des textes, qui d'ailleurs étaient les textes des Mogols, hein,
si, parce que c'est, Mogol, ouais.
Mais de proposer un type de musique et des chansons qu'il aimait dans un contexte de recherche personnelle. Et de l'une des ses chansons les plus célèbres parlent d'émotion.
Émotion. Hein, hein,
et cette idée de transmettre les émotions qu'un jeune de ce moment prouve. Donc, c'était un style musical et conceptuel, je dirais, différent par rapport aux chansons engagées de plusieurs cantautores de cette époque. Mais il n'était pas le seul à faire une musique très personnelle. Si on pense à Paolo Conte, et à tout ce qu'il y a d'extraordinairement personnel et de magnifique sur le plan musical dans ses chansons. Donc c'était des personnes qui refusaient d'être en syntonie sur la même longueur d'onde de l'air du temps et qui proposaient quelque chose de très, très personnel.
Et très novateur, hein, pour
très novateur,
la musique. Merci Alberto, tu vois, on avait une petite introduction, mais finalement, voilà, j'aime bien quand on part comme ça, tu vois, c'est génial, parce que finalement, c'est à bâton rompu. Et alors, tu sais que ça fait précisément un an que tu n'étais pas venu à Aligre.
J'avais la nostalgie. Et d'ailleurs, si tu me permets, Michel, toute mon amitié pour Radio Aligre, continuez, chers amis, d'écouter Radio Aligre et l'émission Il Cappuccino, parce que vraiment tu fais depuis très longtemps une belle émission avec les amis, avec les collègues, et vraiment ça mérite de continuer et d'avoir de plus en plus de succès.
Merci à toi Albert, et toi aussi, on sait qu'on te voit très souvent dans les médias, c'est très rigolo parce que bon, on est obligé un petit peu quand on s'intéresse à l'actualité de regarder un peu les chaînes d'information, CNews, BFM, etc., France Info, etc. Et de temps en temps, paf, on tombe sur Alberto, tiens, il est là Alberto,
hein,
il est là, non, die. Et hier tu étais sur France Info d'ailleurs.
Hier soir, oui.
Alors, tu es là parce que justement, bah, c'est la rentrée, hein, c'est la rentrée scolaire, mais c'est en même temps la rentrée politique et économique, hein, en Italie. Alors, depuis première question, depuis le 22 octobre 2022, Giorgia Meloni a été élue à la présidence du Conseil. Quel est le bilan de cette première année et demie?
Alors, quand on parle d'un parti d'extrême droite, parce que le parti de Giorgia Meloni est un parti d'extrême droite dans ses racines et dans sa conception traditionnelle, on a envie de faire de l'idéologie, de mettre, de faire confiance quelque part à des idées reçues qui sont parfois justifiées d'ailleurs, hein, surtout quand on parle de cette famille politique. Et je crois que si on veut faire un discours froid, on doit dire que on craignait pire sur le plan de certains choix par rapport à l'Europe, par exemple. Et je pense pas que ça a été un bon gouvernement, dans le sens que ce gouvernement a fait des erreurs. Mais il a fait des erreurs dans un contexte de gouvernement qui fait des erreurs. Mais il n'y a pas eu la catastrophe pour la démocratie, oui, que certains prévoyaient,
oui, tout à fait,
il y a un an. Ouais. Et surtout, il n'y a pas eu la catastrophe dans la relation avec l'Europe que certains prévoyaient il y a un an. L'exemple typique, si tu veux, Michel, est le dossier de l'immigration. Et là, il y a de quoi réfléchir quand même. Parce que en campagne électorale, les partis, en particulier les partis qui se situe aux extrêmes, mais un peu tous les partis, font des promesses qui ne tiennent pas la route. Et une fois qu'ils gagnent le pouvoir grâce à ces promesses, ils changent complètement de politique par rapport à leurs promesses. Giorgia Meloni avait parlé de, quelle était l'expression, blocco navale par rapport à l'immigration. Qu'est-ce que ça voulait dire, bloc en avant, et empêcher ces bateaux de partir? C'était manifestement impossible, mais c'était utile à gagner une élection. Et une fois devenu président du Conseil, elle, alors, cette année, jusqu'à hier, 115 000 migrants sont arrivés en Italie et ils ont été accueillis en Italie. Hein. L'année dernière, ils étaient au même jour, à la même époque, 62 000. Donc, on est presque le double. Et il y a deux ans, ils étaient 40 000. Donc, Giorgia Meloni, qui promettait la fin de l'accueil, a accueilli beaucoup plus que Mario Draghi. Alors, on peut dire, comme le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a dit, « Ha, 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 voilà, il ne tient pas leur parole. » Oui, heureusement qu'il ne tient pas leur parole. Heureusement, parce que qu'est-ce qu'on aurait dit si l'Italie avait chassé ces migrants, s'il ne les avait pas accueillis. Alors, la question migratoire qui a été au centre de la campagne électorale pour les élections législatives italiennes d'il y a un an, c'était le 25 septembre 2022. Et cette campagne électorale qui a été axée sur la question migratoire, aujourd'hui a produit un gouvernement qui, malgré tout, doit garder pied sur terre. Et doit garder, et ça, c'est une leçon politique.
Pragmatique, hein,
tout ça. C'est une leçon pragmatique. Alors, je répète, hein, à mon avis, ce gouvernement a fait beaucoup d'erreurs. Et certaines déclarations de Giorgia Meloni ont été dangereuses. Par exemple, quand elle dit vouloir changer la constitution italienne pour introduire le présidentialisme, qu'est-ce que ça veut dire le présidentialisme, ou des silences qui ont pesé plus que des déclarations par rapport à la responsabilité fasciste dans l'attentat de Bologne de 1980. Mais donc je dis pas l'Italie a un formidable gouvernement, je dis pas l'Italie a un gouvernement qui n'a pas fait d'erreur. Mais je dis la démocratie italienne a été solide. La démocratie italienne a été capable de vivre sans des situations catastrophiques pour la démocratie elle-même, une alternance de pouvoir qu'on ne voit pas dans d'autres pays. La démocratie italienne, aujourd'hui, malgré les difficultés politiques, économiques, sociales de l'Italie actuelle, est une démocratie qui a passé une épreuve et une démocratie solide.
Alors, on va faire une pause musicale avec Marcella Bella, que sûrement tu connais. Merci. Io domani, demain, qu'est-ce que alors, ça sera demain?
Ben, là, il n'y avait pas une question sur la chanson, sur la musique. Tu me demandes rien, tu me demandes pas de chanter le texte.
Tu connais Marcella Bella?
Je connais Marcella Bella, bien sûr.
Alors, on rigolait parce qu'on se disait l'autre fois, mais t'imagines que si elle avait pris comme nous Marcella Brutto. Allez, on l'écoute, c'était pas vrai. Ciao.
Sarò donna oppure solo amica come tu mi dire stare sola. Forse un po' per volta ci diremo appena una parola.
Et nous sommes avec Monsieur Alberto Toscano qui,
c'est quand même un monsieur
parce que c'est vrai que tu nous apprends des choses et c'est vrai qu'on est plus éclairé sur la politique italienne et sur l'économie. Alors on va rester un peu sur la politique. Alors comment tu trouves que finalement s'est déroulée cette coalition de Giorgia Meloni pour cet un an et demi et comment va se débrouiller la coalition pour les européennes qui vont avoir lieu en mai. Donc,
il y a deux questions. C'est deux questions complètement différentes, oui. Parce que les européennes, en Italie comme en France, sont à la proportionnelle. Donc, il n'y a pas une valeur ajoutée à être dans une coalition. Au contraire, c'est le test, le moment test pour vérifier le rapport de force à l'intérieur de coalition. Donc, ce qu'on voit, par exemple, en France, de la coalition d'opposition de gauche, on choisit, quelque part, logiquement, de se présenter chacun de son côté pour vérifier qui est plus populaire à l'intérieur de la coalition. Et ceux qui sont contraires à se présenter séparément sont les plus forts de la coalition, c'est-à-dire la France insoumise. C'est eux qui veulent aller tous ensemble, parce qu'ils veulent pas que les européennes soient l'occasion pour remettre en jeu un rapport de force à l'intérieur de la coalition. En Italie, la coalition gagnante de droite, les Italiens utilisent l'expression centre-droite qui, dans ce cas, n'a aucun sens parce que l'axe de la coalition est à la droite de la droite. Donc, à la limite, c'est une coalition de droite-centre, pas de centre-droite. Mais disons, moi je dis pour faire court la coalition de droite, cette coalition avait intérêt et elle a profité de cet intérêt à être unie aux élections d'il y a un an à cause de la loi électorale. Cette loi électorale, à mon avis, absurde, qui avait été choisi quelque part par le centre-gauche et qui donne un prix de majorité dans le sens que une partie des élus sont choisis à la proportionnelle, mais une autre partie importante est choisie par un système majoritaire à un seul tour. Et le système majoritaire à un seul tour à l'anglaise, pour s'entendre, est la pire loi électorale qu'on puisse imaginer. Donc, un tiers des élus étant choisis de cette façon, la droite a trouvé la façon d'être ensemble aux élections et elle a remporté une large majorité de ce tiers de siège de la Chambre des députés et du Sénat élu par le système majoritaire à un seul tour. Et ça a déstabiliser le résultat des élections à la faveur de la droite. Tandis que l'opposition gauche et mouvement 5 étoiles est allée séparée à cette élection et elle a payé le prix de ça. Suite à cette élection, on a eu le gouvernement Meloni qui a été aussi le résultat d'une victoire à l'intérieur de la coalition. Parce que Giorgia Meloni, qui s'est révélée plus pragmatique que Matteo Salvini de la Ligue, a nettement gagné cette élection. C'était d'ailleurs le seul parti qui n'avait jamais été au gouvernement dans les dernières années. Et quelque part, ce parti a bénéficié du fait d'avoir été longtemps à l'opposition. Et par contre, la Ligue de Matteo Salvini, qui avait été au pouvoir avec les 5 étoiles entre 2018 et 2019, et qui trouve en Matteo Salvini un personnage vraiment populiste et qui fait des affirmations profondément anti-européennes, cette Ligue a payé le prix de cette ligne politique plus extrémiste. Et la victoire de Giorgia Meloni, quelque part, malgré ce qu'on peut imaginer, a été moins populiste de ce que l'aurait été une victoire de Salvini à l'intérieur de la coalition. Alors, dans cette perspective, les élections européennes du printemps prochain sont des élections où chaque parti étant se présentant séparé aux électeurs, parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas cette valeur ajoutée qui était le tiers de députés, de sénateurs choisis à travers le système majoritaire. Étant chaque parti de son côté, là c'est vraiment la façon de voir si le pouvoir que Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia ont acquis aux élections de septembre 2022 est encore bien réel après, à ce point-là, ça sera presque 2 ans de gouvernement et de pouvoir. On verra, ça sera, les européennes sont plus une lutte à l'intérieur des coalitions que une lutte entre coalitions. Les législatives sont une lutte entre coalitions. Et les européennes, c'est différent. On verra, et en Italie comme en France, ça sera une façon de vérifier dont la force de parti et la popularité des différents leaders. Probablement, je pense, en Italie comme en France, après les élections européennes et après l'été 2024, une nouvelle saison politique va commencer sans de grands bouleversements. Le gouvernement, les majorités des gouvernements probablement resteront les mêmes, mais peut-être qu'il y aura de remaniements ministériels et que des choses changeront.
En fonction des résultats politiques. Voilà. Oui. Pour terminer sur la politique, et après on passera à l'économie, est-ce que le décès de Silvio Berlusconi va rabattre un peu les cartes avec son parti? Est-ce que ça, y a des gens qui voudront peut-être prendre sa place et qui voudront peut-être avoir plus de...
Tu sais, Michel, pour prendre la place de Silvio Berlusconi, il faut avoir l'argent de Silvio Berlusconi. Parce que Silvio Berlusconi n'était pas un chef d'un parti, il était le fondateur et le patron d'un parti, dans le sens qu'il payait les frais de ce parti. Et la politique est chère. La politique est chère. Il y a eu une époque où le prix de la politique... la politique était financée par des moyens, comment dirais-je, pas très orthodoxes. Aujourd'hui, la magistrature a les yeux braqués sur la politique. La politique est chère, il faut payer pour la politique. Tous les partis le savent. Et donc, je pense que... Alors, sur le plan... Au premier degré, l'héritier de Silvio Berlusconi est Tajani, l'actuel ministre des Affaires étrangères, chef intérimaire du parti Forza Italia créé par Silvio Berlusconi, et dont Antonio Tajani arrivera aux élections. D'ailleurs, il a été président du Parlement européen dans le passé, dont il va amener son parti qui est la branche italienne du Parti populaire européen. Il va diriger son parti sans doute jusqu'aux élections européennes de printemps 2024. Mais ce parti est affaibli. Et le vrai bénéficiaire politique au second degré de la mort de Silvio Berlusconi est Giorgia Meloni, dans le sens que elle n'a plus d'alternative à l'intérieur de sa coalition. Le chef du parti numéro 2 est Matteo Salvini,
le
parti numéro 2 de la coalition et la Ligue, mais les Italiens sont fortement énervés et parfois certains dégoûtés par les positions de Matteo Salvini, qui a changé d'alliance de façon éclatante. Il était au gouvernement avec les 5 étoiles, mais est-ce que tu te rends compte?
Il ratisse l'argent.
Et c'est lui qui a fait tomber le gouvernement avec les 5 étoiles, en croyant arriver aux élections et gagner haut la main les élections
anticipées,
qui n'ont pas eu lieu, qui n'ont pas eu lieu. Ben, écoute, Chirac était bien plus sérieux que Salvini, on est à mon humble avis. Hein.
Et il avait fait une, une erreur aussi.
Il avait fait une erreur de sa nature et il a payé cher avec 5 ans de cohabitation, qui n'ont pas été des années mauvaises pour la France, entre 77 et 82, et 2002. Entre 97 et 2002. Voilà. Mais je crois franchement que le bénéficiaire politique de la mort de Silvio Berlusconi soit Giorgia Meloni.
Alors, très bien. On va faire encore une pause avec... ça, tu dois connaître et tu dois aimer. Adriano Celentano.
Cosa cantiamo?
Une chanson, justement, très d'actualité, Preghero.
Ah, Preghero, qui est la note nel cuore.
C'est marrant parce que cette chanson...
Et c'est tu mi amerai, pregherai.
Voilà. Une chanson qui finalement n'est pas italienne. Hein.
Tu la fede non hai. C'est une chanson très religieuse.
Oui, complètement. Mais c'est marrant parce qu'elle est plus connue pratiquement.
J'avais peur que tu me proposes de chanter ensemble Siamo la coppia più bella del mondo. On est bon, mais on n'est pas le couple.
Et altri. Allez, Adrian Celentano, Preghero. Et il a...
Io t'amo, 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 oh, 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 questo è il primo segno.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Alors, si vous allez voir la vidéo, en fait, il chante en 2012 aux arènes de Vérone, et je pense que c'est l'un de ses derniers concerts en public. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'il a un bonnet lumineux, il y avait des petites lumières comme ça, c'est tout à fait pas sérieux, et c'est tout à fait challenge time. Alors, Alberto, on a parlé de la politique, maintenant, on va parler de l'économie.
Oui.
Parce que ça intéresse beaucoup les Italiens, hein, surtout oui. En ce moment. C'est la crise, c'est compliqué, tout est cher, l'inflation, etc., etc. Et donc, alors déjà, quelque chose qui était assez étonnant par rapport à Giorgia Meloni, où en est la loi sur les super bénéfices de la banque, enfin, pour les banques, au début, ça devait être 40%, puis après, ça diminuait. Finalement, là aussi, elle est très pragmatique.
Cette loi, oui, des lois contre les super-bénéfices dans des différents secteurs, on l'a vu pour les entreprises. Plus que des lois, c'est des pressions de gouvernement. On l'a vu en France pour la Total, au moment du boom des prix de l'énergie, et encore aujourd'hui d'ailleurs, des pressions pour que Total accepte de jouer le jeu. L'Italie a eu l'idée, le gouvernement italien a eu l'idée qui en principe peut être bonne mais qui dans la pratique est compliquée de faire cette loi pour augmenter l'imposition fiscale sur les super bénéfices des banques. L'Europe a réagi en disant c'est limite et probablement pas régulière par rapport aux règles européennes. Le gouvernement italien veut insister sur ça, l'Europe est critique, on verra quelle sera la solution. Mais au-delà, là c'est une partie émergée d'un iceberg. Et il n'est pas impossible que du point de vue du gouvernement italien, ça soit un peu un ballon d'essai dans la perspective d'une négociation qui est beaucoup plus compliquée entre l'Italie et l'Europe aujourd'hui, est compliquée sur deux aspects. Le premier aspect est la partie finale du plan de résilience européenne.
Et oui, l'argent qui doit normalement rentrer dans les caisses de l'Italie pour aider notamment même les entrepreneurs, avec la legge 110.
Ce plan de reprise et résilience a été décidé au moment le plus dur du Covid. À l'époque, c'était le gouvernement Conte 2, c'est-à-dire un gouvernement dirigé par le leader 5 étoiles Giuseppe Conte, mais avec, dans la majorité, pratiquement tous les partis, sauf celui de Giorgia Meloni. Et ce gouvernement, ayant de la majorité beaucoup de partis, sauf celui de Giorgia Meloni et aussi la Ligue. Et ensuite, ce plan a été repris et relancé par le gouvernement Draghi, qui avait dans sa majorité tous les partis, sauf celui de Giorgia Meloni. Donc, le plan de reprise et résilience prévoit de l'argent européen à l'Italie, en partie comme entre guillemets cadeau et en partie comme emprunt à taux particulièrement intéressant du point de vue italien. La partie finale de ce projet et dont la dernière tranche de cet argent doit être encore définie et versée, définie par une négociation entre l'Italie et l'Europe et versée de la part de l'Europe à l'Italie.
On sait le montant?
C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc, c'est un élément fondamental pour l'Italie et pour la situation de ses finances. La situation des finances italiennes aujourd'hui est très délicate. Elle est mauvaise. La dette publique demeure très élevée, entre 1800 et 1900 milliards d'euros. En chiffre absolu, cette dette publique italienne est inférieure au chiffre de la dette publique française, qui dépasse les 2900 et approche des 3000 milliards. Mais par rapport au produit intérieur brut, elle est largement supérieure. Donc, il y a le problème de la dette publique et le problème de la loi de finances qui est en train de définition de la part du gouvernement italien. Et le deuxième aspect, le second aspect qui est fondamental aujourd'hui dans la relation économique et financière de l'Italie avec la Commission européenne, est la définition du futur pacte de stabilité. Je suis désolé d'être un peu technique, mais on doit remonter encore une fois au choc du Covid. Au moment de la crise sanitaire la plus aiguë, l'Europe avait décidé, un, de créer ce plan de reprise et résilience au bénéfice de tous les pays, mais l'Italie est le pays qui en a plus bénéficié, et deux, de suspendre le critère du pacte de stabilité. On se souvient
le
3% de la relation entre le déficit de la finance publique et le produit intérieur brut, et le théorique, très théorique, 60% de la relation entre la dette publique et le produit intérieur brut. Or, les sont tombés la dette parce que c'était les 60% étaient largement dépassés. Mais malgré tout, il y avait un droit de regard de la Commission européenne au sujet à la fois du déficit public et de la dette publique. C'était plus le 60%, mais ça pouvait pas être incontrôlable. Et c'était la Commission européenne avait le droit de imposer pratiquement au gouvernement de respecter certains paramètres et certaines règles. Ça a été suspendu avec au moment le plus dur de la crise sanitaire. Ça devrait reprendre avec l'année 2024. Ce que l'Italie demande à l'Europe, mais la France aussi demande la même chose, est de... oui, on va reprendre le pacte de stabilité à partir du 1er janvier 24, mais on va le reprendre par de nouveaux critères. Ouais, par exemple, on demande... aujourd'hui, il y a une crise de sécurité en Europe, une crise militaire, il y a beaucoup d'aides militaires qui sont envoyées à l'Ukraine. On demande, par exemple, que certains secteurs de la dépense publique, l'engagement militaire, la défense et la santé, par exemple, soient enlevés des critères du pacte de stabilité. Qu'on puisse s'endetter dans ce secteur au-delà de critères rigides prévus par le pacte de stabilité. Donc, il y a cette négociation qui est en cours avec la Commission européenne et avec les autres pays européens. L'automne 2023 est un moment stratégique à la fois parce que chaque pays doit écrire noir sur blanc la loi de finances, le budget pour l'année 24, et donc, en même temps, il faut négocier avec la Commission et avec les autres pays à propos des critères du futur pacte de stabilité. Les Allemands préfèrent revenir aux mêmes critères qu'on a suspendus il y a 3 ans, et les Italiens et les Français préfèrent définir de nouveaux critères. Ouais, donc, on est dans cette situation. Compliqué.
Alors, juste aussi deux choses assez rapidement. C'est il y a une loi aussi qui est en préparation en Italie, mais c'est compliqué aussi sur le salaire minimum, comme il y a ici en France depuis des années. On en est où?
Ben là, Michel, c'est pas vraiment compliqué. Il y avait une exception italienne, un peu absurde. Et le fait que l'Italie n'a pas de SMIC, et il y a très peu de pays en Europe occidentale où il n'y a pas de salaire minimum. Ça n'a pas de sens. Il est juste qu'il y a un salaire minimum. Donc, il est juste que l'actuelle opposition dont l'opposition de gauche, hein, en Italie, demande la création du salaire minimum. Et je pense que Mme Meloni a tort de ne pas accepter une loi sur le salaire minimum. Encore faut-il rajouter quelque chose. Les partis qui sont aujourd'hui à l'opposition ont été au gouvernement pendant des décennies. C'est pourquoi vrai. Ils n'ont pas et fait, voilà, eux, le salaire minimum quand ils étaient au pouvoir?
Bien sûr.
Là, je crois que c'est une bonne question. Ouais. Et une fois de plus, ça nous ramène aux réflexions sur un certain cynisme, sur une certaine démagogie qui est présente dans la politique. Comme quoi, quand on est au pouvoir, on ne fait pas une loi juste. Et dès qu'on est à l'opposition, on se met à crier, on veut cette loi très juste. Bien sûr qu'elle est une loi juste. Mais tu pouvais la faire toi. Non?
Alors, ce qui veut dire que bon, malheureusement pour les ouvriers italiens, on n'est pas prêt d'avoir un SMIC en Italie, alors.
Les ouvriers ne sont pas les bénéficiaires du salaire minimum. Et le salaire minimum serait établi en Italie dans la proposition du Partito Democratico à 9 euros. Et, l'heure. Et, or, les bénéficiaires seraient ceux qui n'arrivent pas à 9 euros de l'heure, qui ne sont pas les ouvriers qui, heureusement, arrivent et dépassent ce montant, mais qui sont cette marée de... surtout des migrants qui travaillent, qui font des productions saisonnières dans l'agriculture, surtout dans certaines régions italiennes, dont les bénéficiaires de la loi sur le salaire minimum ne sont pas aujourd'hui dans les industries, où il y a en Italie une tradition très juste et très forte de négociation collective des contrats de travail
par branche.
Ouais. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle les syndicats italiens n'ont jamais été chauds dans la proposition du salaire minimum, parce que eux, ils négociaient des conditions par branche qui étaient à l'avantage des travailleurs de ces mêmes branches et qui étaient de toute façon meilleures de ce qui aurait été garantie par un salaire minimum. Donc, la raison pour laquelle l'Italie n'a jamais eu de salaire minimum est paradoxalement liée à la force que les syndicats avaient en Italie, et heureusement encore en Italie, et même si on a perdu un peu de cette force, et cette raison est très particulière aux conditions du marché du travail en Italie. Mais indépendamment de ça, il est évident que le salaire minimum est une bonne chose et que surtout aujourd'hui, avec les conditions du travail dans certaines régions italiennes au moment de certains travaux saisonniers, est nécessaire, profondément nécessaire.
Alors, une dernière question rapidement par rapport à l'économie. Où en est l'inflation en Italie?
L'inflation en Italie est plus élevée qu'en France. Et je sais pas par cœur la toute dernière chiffre, si c'est 7 ou 8%, mais on est dans cet ordre de grandeur. Et c'est une inflation élevée, mais le problème n'est pas seulement dans le chiffre de l'inflation. Le problème est dans les retombées de la lutte à l'inflation. La stratégie qui a été choisie par la Banque Centrale Européenne dans la lutte à l'inflation, en suivant la Banque Centrale Américaine, est une stratégie d'augmentation brutale. Le mot brutal n'est pas le mot plus opportun parce qu'elle a été faite de façon graduelle, mais quand même d'augmentation très sensible des taux d'intérêt. Or, les retombées de cette augmentation des taux d'intérêt sur la société italienne, mais aussi française, dans aujourd'hui, sont des retombées très dures. L'Italie est un pays où la ressource, l'investissement de toute la population est la maison, l'appartement. Mm-hmm. Hein, parce que l'Italien est lié à cette idée de la pierre. C'est la garantie pour soi-même et pour ses propres enfants. Donc, l'investissement dans la maison, dans l'achat de l'appartement, est un investissement qui implique le paiement des taux d'intérêt, parce qu'on n'a pas l'argent tout ensemble pour acheter l'appartement. On s'endette avec les banques. En Italie, on s'endette surtout à des taux d'intérêt variables. Or, si les taux d'intérêt, une dette, des taux d'intérêt variables, avec une augmentation sur le taux d'intérêt général, comme ce qu'on vient de voir depuis quelques mois, ça met les Italiens, par exemple les retraités, parce qu'un salarié de l'industrie peut négocier l'augmentation de travail sur la base des contrats collectifs. Mais pour les retraités, en Italie et en France, l'inflation est l'impôt sur les retraités, qui matraque les retraités, qui met les retraités dans une situation très difficile. Quand un retraité est endetté pour l'achat d'un appartement, doit terminer à payer un appartement, et il a l'inflation, l'augmentation de prix des produits de toute nature, et en plus l'augmentation de sa dette avec la banque, il est dans une situation dramatique.
Il reste 3 minutes pour parler de tes projets. Est-ce que tu vas peut-être en 2024, qui sait, sortir un livre? Tu as sorti un livre il y a quelques mois sur le fascisme.
C'était un livre sur le fait qui s'appelait Mussolini, un homme à nous, et la France et la marche sur Rome. C'est-à-dire Mussolini a pris le pouvoir grâce, entre autres, au soutien français. Et Mussolini est une créature française déjà en 2014, quand il prend une position favorable à l'intervention de la Première Guerre mondiale. Et là, les services secrets français l'aident énormément à créer son nouveau journal. Et aussi en 2022, quand il est déjà le Mussolini fasciste, il prend le pouvoir pour devenir dictateur. Il est vu avec beaucoup de faveur en France par la presse et par le gouvernement. Cette histoire n'était pas très connue, et pour cause.
Et oui, donc, c'est pas très flatteur pour les Français.
Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mussolini, un homme à nous, qui est publié par les éditions Armand Collin, et qui raconte cette histoire.
Donc on peut acheter et encore se procurer avec grand
merci
plaisir.
Merci beaucoup.
Merci Alberto. Merci Alberto Toscane, qu'on peut retrouver sur pratiquement toutes les chaînes d'information, et notamment France Info aussi, hein, peut-être plus récemment.
Grazie, et à presto.
Et à presto, j'espère que tu viendras encore nous éclairer sur l'actualité italienne. Merci à toi Alberto Toscane.
A presto.
Merci.
Tanti auguri per tutto.
Grazie.
Ciao.
Per te.
Ce n'hai bisogno.
Sì, sì.
Ciao.
Grazie mille.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.